Bon, alors on va commencer, je pense, dans une minute. On m'a dit qu'il y avait déjà du monde dehors, donc on va pas. Je vais démarrer lentement pour que les gens puissent arriver tranquillement. Vous êtes déjà nombreux. Bienvenue au 15e Zootopial, donc première conférence, et ça va être suivi par de nombreuses autres. Première conférence sur le voyage interstellaire. Est-ce une idée intelligente? Alors, j'ai mis intelligente dans le titre parce que ça fait référence évidemment à la thématique générale de ces utopiales. On va voir que le voyage interstellaire, c'est quelque chose qu'on peut penser. C'est quelque chose qui ne nécessite pas de physique extraterrestre, qui ne nécessite pas d'invention particulière. Il y a quand même quelques soucis techniques, quelques difficultés techniques qui se poseront. Et c'est juste l'empreinte et financière. Mais enfin, évidemment, quand c'est technique, ça devient rapidement financier, évidemment. Mais qu'on peut le penser, et c'est peut-être ça qui est le plus. Alors, je ne vais pas avancer sur la suite, mais le plus désespérant, c'est qu'on peut le penser, mais on ne peut pas encore le faire. Donc, on est dans un stade, finalement, le voyage interstellaire, c'est quelque chose qui n'est pas impossible, mais qui est très difficile. Et cette petite nuance-là fait quand même. C'est un grand pas, mais elle n'est pas facile. Est-ce qu'on peut commencer à projeter les images? Je demande à la régie s'ils peuvent m'envoyer les images sur l'écran principal. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'on peut mettre l'image en grand, l'image principale de la conférence sur l'ensemble de la projection? Ah, voilà, comme ça, en grand, c'est super. Ah, voilà, génial. Alors là, on double, mais ça va s'arranger. On a deux fois. Alors, avant de passer à la question du voyage interstellaire, il y a déjà un certain nombre de choses. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes aguerris en sciences, quand même, vous en savez un peu. Vous savez un peu de science-fiction aussi, certainement. Vous, néo-utopiales, vous n'êtes pas ni ignorant ni en science ni en science-fiction, mais il y a quand même un certain nombre de choses à rappeler, à mon avis, qui ne sont pas sans intérêt. C'est d'abord les distances qui nous séparent des étoiles. Et si on regarde d'abord dans le système solaire, où il y a donc les 8 planètes du système solaire, et puis tous les autres petits objets du système solaire, si on réduit le Soleil, qui est une taille considérable, le Soleil c'est un astre qui fait 1 400 000 km de diamètre, 109 fois plus gros que la Terre, 330 000 fois plus massif, c'est quand même un objet tout à fait impressionnant au regard des planètes. Alors si on le réduit à la taille d'une bille de 1 cm, la Terre c'est comme un point d'imprimerie, donc c'est une toute petite chose la Terre, et qui est située à 1 mètre du Soleil. Et si maintenant on regarde où se situent les frontières du système solaire, donc la planète Neptune qui est ici, les objets au-delà de Neptune, on les appelle transneptuniens. Pluton est désormais un objet transneptunien, une planète naine, et puis il y a maintenant plusieurs centaines d'objets au-delà de Neptune. Alors Neptune est à 30 mètres du Soleil, ce qui est quand même déjà une distance assez considérable. Ça veut dire, si le Soleil, c'est, mettons ça, la Terre est ici, où je suis, et c'est tout là-bas au fond, il y a Neptune. Et l'étoile la plus proche, elle se situe à 260 km à peu près. L'étoile la plus proche à 260 km à cette échelle-là. D'ailleurs, 260 km d'ici, je ne sais pas où c'est, enfin c'est Brest peut-être, je n'ai pas une idée des distances entre Paris et entre Nantes et Brest. Mais enfin, ça commence à être vraiment loin. Donc le Soleil, la Terre à 1 mètre, la fin, disons, du système solaire, en tout cas des planètes à 30 mètres, et l'étoile la plus proche à 267 km. Et à cette échelle-là, la lumière progresse de 2 millimètres à chaque seconde. 2 millimètres à chaque seconde. Vous imaginez faire 260 km, un petit voyage de week-end, à 2 millimètres par seconde. Ça prend un certain temps. Voilà, ça prend un certain temps. Eh bien, ça prend à peu près 4 ans, en fait. L'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. La lumière qui nous en vient met à peu près un peu plus de 4 ans pour nous parvenir. Donc, les distances qui nous séparent des étoiles sont considérables au regard des distances dans le système solaire. Et on se rappelle que dans le système solaire, c'est déjà un peu compliqué. Quand on va sur Mars, il faut 6 mois. Quand on va sur Jupiter, il faut plusieurs années. Et la sonde, on va en reparler tout à l'heure, la sonde New Horizon, qui va arriver l'année prochaine près de Pluton, elle est partie en 2006. Hein, donc ça veut dire qu'il faut du temps pour se balader dans le système solaire, et les étoiles, c'est encore pire. Alors là, j'ai un petit plan qui représente le voisinage solaire. Le nom, c'est pour montrer un peu le Soleil au centre, ici, au centre, et puis des étoiles un peu autour. L'échelle qui est ici, cette longueur-là, ça représente 10 années-lumière. Donc, une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. La distance parcourue par la lumière en un an, 10 000 milliards de kilomètres à peu près. Et voilà les étoiles autour du Soleil. Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante de notre ciel, en éclat apparent, est une étoile qui se situe à 9 années-lumière. Donc on a une petite dizaine d'étoiles, disons, relativement proches, mais à la vitesse de la lumière, il faut au moins 4 ans et peut-être jusqu'à 15 ou 20 ans pour atteindre les étoiles les plus proches, vraiment celles qui sont dans l'environnement du Soleil, à la vitesse de la lumière. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on sait faire comme vitesse? Eh bien, si on regarde ce que savent faire les sondes Voyager, alors là, sont ici les sondes interplanétaires pionnières, les deux sondes pionnières et deux sondes Voyager qui ont été le plus loin dans le système solaire. Alors les distances sont indiquées ici en unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, la distance moyenne Terre-Soleil. Donc les sondes les plus proches, on fait la Lune, Mars, etc. Et les sondes les plus lointaines qu'on ait pu envoyer, elles sont en ce moment à peu près à une centaine d'unités astronomiques. Donc elles sont bien au-delà de Neptune. Elles ont même, pour le cas de Voyager 2, pour Voyager 1, elles ont même franchi les limites du système solaire. C'est-à-dire cette zone où le Soleil a son influence, qu'on appelle l'héliosphère, et elles sont rentrées déjà dans le milieu interstellaire, en dehors de la zone où le Soleil a son influence maximum, à la fois par le champ magnétique, à la fois par la composition de la matière du milieu dans lequel vous baladez, à la fois par son influence gravitationnelle. Donc cette sonde, il n'y a que cette sonde-là qui finalement est allée dans le milieu interstellaire. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Et les autres sont en train de progresser en s'éloignant du Soleil. Les distances sont indiquées ici en heures-lumière, pour vous donner une idée. Donc il faut 15 heures à la lumière, 15 heures à la lumière pour venir de ces sondes, par exemple, une quinzaine d'heures. Je rappelle que l'étoile la plus proche, c'est 4 années-lumière. Là, c'est 15 heures-lumière. Et les vitesses à laquelle elles progressent, regardez, c'est indiqué là, on peut les regarder un peu, c'est typiquement, on va dire en chiffres ronds, une quinzaine de kilomètres par seconde. C'est une vitesse tout à fait considérable. Hein. Les avions de ligne, ils ne voyagent pas à des kilomètres par seconde, ils voyagent à des centaines de mètres par seconde, à des 0,1 kilomètres par seconde. Un kilomètre par seconde, c'est 3600 kilomètres par heure, c'est disons des avions de chasse. 15 kilomètres par seconde sont ces sondes, c'est 20 000 fois plus lent que la lumière. 20 000 fois plus lent que la lumière. Ça veut dire que si on visait exactement l'étoile la plus proche, qui est à 4 années-lumière environ, si on la visait exactement à 15 km par seconde, on avance 20 000 fois plus lentement que la lumière, il faut 4 fois 20 000 ans. 80 000 ans. Voilà. Actuellement, le truc le plus high-tech, si je veux dire le plus rapide qu'on sait faire, il faut 80 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. Inutile de vous dire qu'on n'essaie pas de la viser. Hein, je veux dire, on ne fait pas de mission. Une mission interplanétaire, une mission spatiale, déjà, ça se conçoit, se construit sur des dizaines d'années. Ensuite, ça s'envoie dans l'espace, où elle vit pendant, ça peut être quelques dizaines d'années, puisque le temps d'aller sur place, sur Jupiter, Saturne, par exemple, autour de Jupiter ou de Saturne, et puis ensuite que la mission se fasse, eh bien, voilà, ça, l'extension complète entre la conception et la fin de la mission, ça peut s'étaler sur 25 ou 30 ans. Et regardez, dans le cas des sondes voyageurs, ça s'étale même depuis pratiquement 40 ans. Elles sont encore suivies. On sait où elles sont, on sait les suivre. Alors voilà, c'est pour dire qu'il faut aller beaucoup plus vite qu'on ne sait le faire actuellement si on veut atteindre les étoiles. Par beaucoup plus vite, il ne faut pas voyager à peut-être 20 000 fois moins vite que la lumière, un 20 millième de la vitesse de la lumière, mais il faudrait voyager peut-être à 1%. Si on va à 1% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà un progrès considérable par rapport à actuellement, ben il faut déjà quand même 400 ans pour atteindre cette étoile la plus proche. Et déjà 400 ans, on sent que c'est un peu long. On n'a pas envie d'être dedans. Et puis ceux qui envoient, ils sont morts plusieurs fois, si je veux dire. Enfin, eux, ils sont morts, et leurs descendants sont morts, et leurs descendants de descendants sont morts quand la mission arrive. Donc, ça nécessite, c'est un projet de très long terme. En allant déjà à 1% de la vitesse de la lumière, ce qu'on pourrait peut-être imaginer faire, ce qui n'est pas en dehors de nos moyens techniques, si on y met vraiment d'énormes moyens, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça pour une petite mission. Alors, je ne parle pas des missions Voyager. Alors, au-delà de cette problème de vitesse, je vais attirer votre attention sur un point de physicien, c'est que finalement, aller vite, ça nécessite de dépenser une énergie considérable. Aller vite, ça nécessite de dépenser une énergie considérable. Ça, c'est un point important qui va être le point focal, en fait, finalement, de toutes ces affaires de voyage interstellaire. C'est pas tellement le point de la motorisation. Je vais pas discuter tellement est-ce qu'on prend un moteur en antimatière ou un moteur, je sais pas quoi. Je donnerai deux, trois éléments. Mais ça, c'est un point important qui est un point technique. Mais il y a un point fondamental. Avant même d'en arriver à discuter de la solution technique, c'est d'où vous sortez l'énergie. Ça, c'est important, parce qu'en physique, l'énergie, c'est la mesure de votre capacité à faire des transformations. Si vous voulez fabriquer ce meuble, il va falloir payer l'énergie. Si vous voulez le détruire, il faut payer l'énergie. Si vous voulez le réchauffer, il faut payer l'énergie. Si vous voulez le refroidir, il faut payer l'énergie. Si vous voulez le transformer, il faut payer. Quoi que vous fassiez, il faut payer l'énergie. Et plus vous voulez faire de grandes choses, et plus il faut payer l'énergie. Et dans le cas du voyage interstellaire, il faut payer beaucoup d'énergie. Et c'est ça le point fondamental, c'est d'où vous allez la sortir. Alors j'ai pris pour exemple ici cette fusée très emblématique de la conquête spatiale, la fusée Saturne V au décollage. Fusée Saturne V qui a emmené les astronautes des missions Apollo vers la Lune. Alors, Si j'essaie d'estimer combien d'énergie ça coûte d'envoyer, j'ai pris 1000 tonnes de charge utile. 1000 tonnes de charge utile, c'est pas un... c'est la moitié de la tour Eiffel ou un tiers de la tour Eiffel. C'est un beau tas de ferraille, si je veux dire. Enfin, il y a de quoi mettre des choses. Mais il n'y a pas suffisamment de masse dans un vaisseau de 1000 tonnes pour mettre des humains dedans. Il n'y a pas assez de matière, il n'y a pas assez tout ce qu'il faut pour les faire voyager jusqu'à cette étoile. Supposons que ça soit à 0,1 de la vitesse de la lumière, c'est le symbole de la vitesse de la lumière, donc 10% de la vitesse de la lumière, il faut donc une quarantaine d'années. On se dit, oh, 40 ans, c'est pas mal, si on sait faire ça, c'est pas mal. Eh bien, envoyer 1000 tonnes de charge utile, c'est-à-dire c'est que de la ferraille, c'est que des sondes, des orbiteurs, du matériel, des caméras, des systèmes de télécommunication, des batteries, tout ce que vous voulez. C'est du matériel uniquement, pas d'humains dedans, pas d'êtres vivants. Eh bien, 1000 tonnes de charge utile à 10% de la vitesse de la lumière, il faut communiquer à ces 1000 tonnes à peu près l'équivalent de la consommation humaine annuelle d'énergie. Ça veut dire, pour faire plus simple, pendant un an, on coupe tout. On arrête tout là, tout ça s'arrête, les voitures, tout, l'électricité, on arrête tout ce que font les humains en énergie, on en fait un gros tas, je passe sur les détails techniques évidemment, qui sont non négligeables, on fait un gros tas de cette énergie, on injecte cette énergie, ça va passer par un moteur, on injecte cette énergie dans les 1000 tonnes, et vous allez à 10% de la lumière. C'est pas Star Trek encore, hein, vous voyez, c'est pas Star Wars, c'est pas tout ça. Donc ça veut dire que l'effort à fournir pour... envoyer 1000 tonnes à 10% de la lumière, qui ferait un voyage d'une quarantaine d'années pour atteindre Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, ça nécessite de prendre toute l'énergie que l'humanité consomme, sans exception, et de l'injecter avec 100% de rendement dans le vaisseau que vous avez fait. Sachant que les rendements ne sont jamais de 100%, d'accord, sachant qu'il y aura des problèmes, voilà. Ça vous dit que c'est pas facile. Il faut vraiment prendre beaucoup, il faut prendre tout votre budget énergétique, et même peut-être plusieurs fois votre budget énergétique annuel pour faire ça. Alors, je compare avec Saturne V, parce que Saturne V, au décollage, le moteur principal de Saturne V, c'est quelque chose. C'est un engin qui, pendant 165 secondes, c'est-à-dire un peu moins de 3 minutes, le temps que la fusée décolle, le premier étage, il a fourni 120 gigawatts, 120 milliards de watts, 120 centrales nucléaires. Le premier étage de Saturne V, pendant 3 minutes, c'était 120 centrales nucléaires. Voilà, il faut réaliser l'engin. C'est absolument extraordinaire comme machine. La puissance de cette machine est extraordinaire. Elle n'a même pas duré 3 minutes. Au bout de 3 minutes, ça s'arrête. Et ça a permis de mettre tout le train lunaire, quand je dis le train lunaire, toute la structure, qui ensuite est allée vers la Lune, en orbite. Ça ne l'a pas envoyé vers la Lune. Ça a mis le train lunaire en orbite. D'accord ? Après, ils ont fait plusieurs tours de la Terre, et hop, ils sont partis. Une petite coup de propulsion supplémentaire, ils sont partis. Et cette chose-là, ça représentait un peu moins de 1% de la puissance que produisait l'humanité à l'époque. 1%. 1%, effectivement, c'est un budget intéressant. Si je vous dis, donnez-moi chacun 1% de votre salaire mensuel et avec ça, on va organiser l'Usdopial, par exemple. Peut-être, vous pourriez dire, peut-être j'ai mieux à faire avec ce 1%-là, mais essentiellement, ça va pas, vous n'allez pas le ressentir de manière... vous allez le voir, mais ça ne va pas vous détruire votre niveau de vie, essentiellement. Vous allez pouvoir continuer presque comme avant. 1%, c'est pas grand-chose, disons. Si on imagine que le budget énergétique d'une mission interstellaire doit représenter, mettons, 1% du budget énergétique humain, actuellement, il représente plutôt 100%, peut-être même 200 ou 300%. Si on imagine qu'il doit représenter 1%, ça veut dire qu'il faut multiplier par au moins 100 et peut-être 200 ou 300 la capacité de production énergétique de l'humanité. Le facteur 100, il a été déjà fait une fois entre l'ère pré-industrielle et l'ère moderne. On est passé d'un facteur 100. L'énergie produite par l'humanité au XXe siècle est typiquement une bonne centaine de fois supérieure à ce que produisait l'humanité avant l'ère industrielle, qui s'est décomposée en gros en deux parties, pour faire simple. Il y a à peu près 10 fois plus d'habitants sur Terre, et chaque habitant consomme en moyenne 10 fois plus d'énergie. Je dis bien en moyenne, parce qu'en pratique, en Afrique, ils consomment à peu près pareil qu'il y a 100 ans. Et en France, on consomme mais beaucoup plus qu'il y a 100 ans. Beaucoup, beaucoup plus qu'il y a 100 ans. En France ou dans les pays occidentaux en général. D'accord ? Donc à la fois, la production par tête d'humains et le nombre d'humains ayant été multipliés, on a abouti à un bon facteur 100 dans la capacité de production énergétique humaine. Si on veut donc faire un voyage interstellaire, il faudrait, pour que ce soit un petit budget, une petite fraction du budget énergétique humain, multiplié par peut-être 100 ou 200, encore une fois, l'énergie dont dispose l'humanité, dans un contexte où on est plutôt en train de se dire d'où on va sortir l'énergie dans 50 ans.
hein, parce que le pétrole, ça descend, le gaz, ça descend, le charbon, ça descend, l'uranium, ça va descendre, et ça descend. Voilà, donc on est dans un contexte où l'énergie, on ne la sort pas sous le sabot d'un cheval, et il faudrait multiplier par 100 pour pouvoir en fournir 1% dans un voyage interstellaire. Donc il faut beaucoup plus d'énergie. La solution passera par « il faut que l'humanité dispose de beaucoup plus d'énergie ». Alors j'ai fait un petit calcul, en imaginant, même en imaginant que tout se passe bien, j'oublie complètement tous les problèmes énergétiques qui pourraient se poser à l'horizon, mettons 2030, 2050, toutes les questions qui sont soulevées par l'alimentation d'énergie de l'humanité dans les 30 ou 40 prochaines années. Imaginons qu'on continue à progresser en production d'énergie comme on progresse depuis déjà un certain nombre d'années, 1,5% par an, il faut 310 ans pour atteindre ce x100. Ça veut dire que même si tout va super bien, je suis un peu désagréable, mais ne vous inquiétez pas, j'aurai des choses plus optimistes après, mais même si tout se passe bien, il faut peut-être 300 ans avant qu'on ait un total d'énergie suffisant pour qu'un voyage interstellaire pas trop exagéré, raisonnable, ne représente que 1% du budget de l'énergie de l'humanité. Voilà, donc c'est pas pour demain le voyage interstellaire, c'est pas pour demain. Voilà, un voyage interstellaire un peu ambitieux. 1000 tonnes, c'est ambitieux quand même, hein, c'est pas mal. On pourrait imaginer, les premières missions martiennes, c'était des orbiteurs, des choses qui tournaient autour de Mars. Les premières missions au sol, c'était Viking, c'était posé au sol, ça bougeait pas. Les premiers robots qui sont déplacés, le premier robot Sojourner, c'était comme une boîte à chaussures, hein, c'était à peu près aussi grand qu'une boîte à chaussures. Les deuxièmes robots, Opportunity et Spirit, c'était un peu plus grand. C'était des trucs qui étaient métriques, un peu moins d'un mètre de taille. Et le dernier, Curiosity, il fait la masse d'une voiture, il fait quasiment une tonne. Donc vous voyez qu'on progresse, les ambitions progressent. On pourrait imaginer d'abord, si on envoie, mettons, un iPhone en orbite autour d'Alpha du Centaure, c'est déjà super, quoi. On aura des photos d'Alpha du Centaure. Même un iPhone, il n'y a pas besoin d'avoir de la grande technologie. Simplement, ces photos, il faut qu'elles reviennent. Et donc il faut tout le système de communication qui va envoyer les photos sur Terre. Et le système de communication, il pèse. Et il faut l'énergie pour alimenter le système de communication, et ça pèse. Et il faut le moteur pour envoyer tout ça là-bas, et ça pèse. Donc même pour envoyer un simple iPhone, une mission très peu ambitieuse, il faut déjà énormément. Et puis il faut s'assurer que l'iPhone, il va fonctionner au bout de 40 ans de voyage. Et ça, c'est pas sûr. D'accord ? On n'est pas très sûr. Il faut s'assurer que la techno va fonctionner sur la période du voyage. Donc ça nécessite des engins, des objets techniques qui ne sont pas exactement ceux du grand public, du commerce. J'entends par là, il faut qu'ils soient raffinés en point de vue de leur qualité, si j'ose dire. Alors, pour vous montrer la difficulté, une autre façon de vous montrer la difficulté, voilà comment ça fonctionne la propulsion actuellement. Essentiellement, on éjecte de la matière à l'arrière, on éjecte une petite masse à une grande vitesse, et la grosse masse à l'avant, la grosse masse, ce qui reste de la fusée, va accélérer un petit peu. D'accord ? Donc on gagne de la vitesse en éjectant de la masse à l'arrière. Ça s'appelle action et réaction. C'est ce que font les poulpes. Les poulpes font ça, ils éjectent de l'eau avec un petit muscle spécial. Et puis les avions en réaction, évidemment, et les fusées. Évidemment, les fusées, dont la fusée de Tintin que vous avez tous reconnue. Pour ceux qui aiment les formules, j'en mets une. Comme ça, on ne pourra pas dire que ce n'était pas une conférence scientifique un peu rude. On pourrait dire, ah, le hook, ça rigole pas. Ça veut dire que l'incrément de vitesse, je lis cette formule pour ceux qui ne sauraient pas la lire, et puis s'ils veulent l'oublier, c'est pas grave, ceux qui savent la lire, ils comprennent tout de suite. L'incrément de vitesse, la vitesse que vous gagnez, c'est quoi? C'est le produit de la vitesse d'éjection, il faut éjecter vite, et multiplié par le logarithme du rapport entre la masse initiale de la fusée et la masse finale. Ça fait pas rigoler, hein. Bon, ceux qui savent, j'explique pas plus, ceux qui savent pas, c'est pas grave, vous oubliez directement. Mais il faut payer à la fois en masse d'éjection et en vitesse d'éjection. Donc il faut éjecter idéalement beaucoup et vite. Éjecter beaucoup, c'est compliqué, parce que plus vous prenez de la masse à éjecter, cette masse à éjecter, il faut l'emporter avec vous, il faut donc l'accélérer pour l'éjecter. Donc plus vous emportez de la masse à éjecter, plus il faut de la masse pour éjecter la masse à éjecter. Il y a une manière de cercle vicieux qui fait que, bon, ça ne va pas s'arranger comme ça. Et la vitesse d'éjection, c'est qu'il faut extraire de l'énergie de cette matière que vous avez emportée, du carburant, pour dire les choses simplement. Il faut extraire de l'énergie et la transformer en vitesse d'éjection du gaz, pour que le gaz y parte vite. Et cette façon d'extraire de l'énergie, c'est le moteur. D'accord ? C'est la façon dont va fonctionner votre moteur, ce sera votre choix de motorisation. Alors, si on veut aller aussi vite que la vitesse d'éjection, il faut prendre deux fois plus de masse, presque trois fois plus de masse initiale que de masse finale. Donc vous voulez 1 kg au final, il faut prendre 3 kg au début. Si vous voulez 1000 tonnes, il faut 3000 tonnes. Et vous avez juste la vitesse d'éjection. Si vous voulez aller 100 fois plus vite que la vitesse d'éjection, Alors, il faut prendre 10 puissance 43 fois. J'ai beaucoup. Enfin, je veux dire, ça devient délirant. J'ai mis les nombres pour vous montrer à quel point c'est délirant. Un simple chiffre. La fusée ultime, c'est quoi? Vous prenez toute la masse de l'univers observable. Et la charge utile, c'est un proton. Vous ne faites rien avec un proton. Et vous essayez de faire la fusée la plus boum d'un coup, en réaction. Un proton, c'est un atome d'hydrogène. Ça, c'est la charge utile, qui est poussée aux fesses en éjection à une vitesse habituelle qui est à peu près 10 km par seconde, qui est la vitesse d'éjection des fusées actuelles. Les fusées qu'on sait faire, Saturne 5, toutes les fusées qu'on sait faire. Vous prenez la masse de l'univers observable qui pousse un proton, et la vitesse finale, c'est même pas 2000 km par seconde. 2000 km par seconde. Ça veut dire minable. C'est beaucoup par rapport à ce qu'on sait faire, mais c'est minable. Il y a l'univers entier au cul de la fusée, et c'est 2000 km par seconde. D'accord ? Donc, c'est pas en augmentant la masse qu'on va vraiment augmenter la vitesse finale de la fusée. D'accord ? Augmenter la masse, c'est une bonne idée, mais c'est pas suffisant. Parce que chaque fois que vous augmentez la masse, vous devez pousser cette masse qui vous sert à pousser la fusée plus tard. Et donc, ça, finalement, il y a un cercle vicieux, d'une certaine façon, qui s'installe. La meilleure solution, c'est d'augmenter la vitesse d'éjection. Il faut pousser vite, mais vraiment vite. Alors là, j'ai montré, si on prend 10 km par seconde comme vitesse d'éjection et qu'on veut atteindre 10% de la vitesse de la lumière, votre objectif final, c'est d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière pour notre petite mission de tout à l'heure. Mais vous vous éjectez à 10 km par seconde, qui n'est pas 10%, qui est 30 000 fois moins que la vitesse de la lumière. Ce n'est pas 10 fois moins, c'est 30 000 fois moins. Et bien voilà, enfin bon, les nombres sont délirants derrière. Donc il faut, à la fin, éjecter vite. Voilà la solution, c'est être capable d'éjecter vite la matière que vous avez emportée, mais vraiment vite. Vraiment vite, ça veut dire à une fraction de la vitesse de la lumière, 10% ou 20% de la vitesse de la lumière. Pour l'instant, on ne sait pas faire ça. On ne sait éjecter à 10 km par seconde. On a des moteurs ioniques, des moteurs à propulsion électrique, donc qui accélèrent du xénon, en l'occurrence, par exemple, du gaz xénon, et qui l'accélèrent jusqu'à plusieurs milliers, éventuellement, de kilomètres par seconde, ce qui est bien plus rapide que ce que savent faire les fusées actuellement, mais ils éjectent des petites quantités de matière. C'est la propulsion qu'on appelle électrique, propulsion ionique. Donc on sait éjecter, disons, assez vite, plutôt dans la gamme des 1000, peut-être à entre 1000 et 10 000 kilomètres par seconde, mais pas beaucoup de matière. Ou alors on sait éjecter beaucoup de matière, comme la grosse fusée tout à l'heure, mais pas très vite. On est un peu, voilà, entre deux eaux. Et essentiellement, la réponse à tout ça, c'est un problème d'énergie. Pour faire ça, là, c'est une vue d'artiste de ce que pourrait être une fusée à propulsion nucléaire, un réacteur nucléaire dans la fusée dont on prend l'énergie. Réacteur nucléaire, c'est quelque chose qui va extraire beaucoup d'énergie de la matière. Par beaucoup d'énergie, voilà selon le type de propulsion que vous choisissez, la fraction d'énergie que vous êtes capable d'extraire. Là, vous pouvez extraire, en propulsion chimique, vous extrayez que 1/1 milliardième de l'énergie de masse de la matière. C'est ridicule. C'est la chimie, c'est les explosions, ça fait plein de choses. Hein. Si on vous fait péter, une bombe ici, c'est pas souhaitable, mais enfin, ça va faire du bruit, ça va s'entendre, ça va se voir. Donc la chimie, ça produit de l'énergie. Mais ça n'extrait que 1/1 milliardième de l'énergie de masse. Nous, ce qu'on aimerait, c'est extraire beaucoup plus que ça de l'énergie de la masse que vous emportez. Si on prend la propulsion nucléaire, on peut extraire une fraction de pourcent de l'énergie de masse. C'est déjà beaucoup mieux, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires à fission, qui, en France en tout cas, fournissent l'essentiel de l'électricité en France. Dans les centrales à fusion, le réacteur ITER, c'est des réacteurs au sol. On est en train de le construire. C'est un projet, c'est une grande expérience qui va ensuite peut-être déboucher vers la production d'électricité et d'énergie par fusion thermonucléaire, l'assemblage de noyaux légers pour faire un noyau plus lourd. Alors que la fission, c'est on casse un gros noyau comme de l'uranium en deux et on extrait l'énergie, on récupère l'énergie qui résulte de cette brisure. Eh bien, fission ou fusion permet d'atteindre 2%, ou peut-être 4% de la vitesse de la lumière en vitesse d'éjection. C'est pas mal. Mais ça veut dire mettre un réacteur nucléaire dans l'espace à fission ou à fusion. Vous imaginez la complexité de faire ça. Et puis, évidemment, la sûreté, les problèmes de sûreté qui vont avec ça. On n'imagine pas mettre un réacteur nucléaire dans l'espace comme ça. Sans prendre de on met dans la fusée le réacteur nucléaire, on l'envoie. Est-ce que ça vous plaît comme idée par défaut ? Vous dites sûrement, si vous êtes pro de la SF, vous aimez l'aventure, mais quand même, prenons des précautions. Ça veut dire que ça prendra un certain temps avant qu'on soit capable de qualifier un réacteur nucléaire pour être envoyé dans l'espace. Et puis la fusion, enfin le système ultime, qui est le système de réaction entre matière et antimatière. L'antimatière, c'est une sorte de miroir de la matière ordinaire qui a essentiellement une charge électrique opposée. Si on prend un anti-électron qu'on appelle un positron, il a une charge positive alors que l'électron a une charge négative. Un antiproton, il a une charge négative alors que le proton a une charge positive. Et si on fait réagir matière et antimatière, ça s'annihile et on récupère. L'intégralité de la masse est transformée en énergie. En pratique, on ne peut pas récupérer 100% de cette énergie. Il y en a qui a été mis sous forme de lumière, qui n'est pas facile à récupérer. On récupère à peu près 60%. Quand on fait annihilation matière-antimatière, on peut espérer récupérer 60% de l'énergie de masse. Là, c'est un vrai nombre intéressant. Et espérer atteindre 60% comme vitesse d'éjection, 60% de la vitesse de la lumière. Donc là, ça devient intéressant. Matière-antimatière, c'est peut-être génial. Le problème, c'est qu'il faudrait des kilogrammes d'antimatière pour faire ça. Et on produit actuellement l'intégralité de toutes les expériences de physique des particules de l'humanité. On produit peut-être quelques millionièmes de grammes d'antimatière. Et c'était pour faire de la science, hein, c'était pas pour produire d'antimatière et à but, disons, de propulsion, par exemple. Donc il y a du chemin à parcourir, c'est pas de l'ordre de l'impossible, c'est de l'ordre du techniquement difficile. Et donc ça sera donc long. Alors il y a quand même des projets qui ont été faits, notamment la British Interplanetary Society, c'est un des projets les plus anciens. Il y a eu un certain nombre d'autres projets qui ont été faits depuis. Je mets celui-ci, le projet Daedalus, parce qu'il est historiquement important. Et si on tente le coup quand même, c'est pensable, est-ce qu'on peut chiffrer les choses, montrer la difficulté des choses et essayer de voir quels vont être les points techniques, identifier les points techniques sur lesquels il faudra travailler dans les années, les dizaines d'années qui suivent pour passer le cap technique. Alors là, c'est une vue d'artiste du projet Daedalus. La charge utile, elle est ici. Là, il y a un bouclier qui protège la charge utile. La charge utile, c'est ça. Ça, c'est la propulsion secondaire et ça, c'est la propulsion primaire. Les sphères ici sont les réservoirs. Là, ici, il faut rendre compte, l'échelle, c'est 50 mètres de diamètre. 50 mètres de diamètre. Hein. C'est un réacteur à fusion, c'est énorme. Enfin, c'est une machine énorme qui est là. Et ce que contient les réservoirs, ben, ce n'est pas un carburant qui court les rues. C'est de l'hélium-3. L'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium, qui est l'hélium courant, c'est l'hélium-4. Il n'y en a presque pas sur Terre. Alors, il faut aller le trouver ailleurs. Et où ? Sur Jupiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la machine en orbite de la Terre. Je résume rapidement quand même. On fait la machine en orbite autour de la Terre parce qu'elle est tellement massive qu'on ne va pas l'envoyer depuis le sol. On la fabrique en orbite. Il faut donc fabriquer une énorme machine en orbite. On sait faire ça un peu. La station spatiale internationale, elle est construite en orbite. Mais bon, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut envoyer un certain nombre de transporteurs qui amènent les millions de tonnes pour cette machine-là. Les millions de tonnes de la machine en orbite, ça va coûter du temps, de l'argent, des efforts. Et la charge utile ici, c'est 450 tonnes. Vous voyez, c'était de l'ordre de grandeur. Moi, je parlais de 1000 tonnes tout à l'heure. On met en orbite, ça va vers Jupiter, ça s'arrête et ça va moissonner, si j'ose dire, l'hélium-3 sur Jupiter. Donc, vous voyez déjà, il faut industrialiser Jupiter. Il faut être capable d'avoir non seulement construire une énorme machine en orbite autour de la Terre, mais en plus, il faut être capable de récupérer la matière première qui vous sera utile dans Jupiter. Vous remplissez vos réservoirs. Et boum, c'est parti. Vous pouvez espérer atteindre à peu près 12% de la vitesse de Jupiter en faisant fusionner de l'hélium-3 et du deutérium qu'on trouve sur Terre, qui n'est pas un élément extrêmement abondant, un isotope extrêmement abondant, mais qu'on trouve dans l'eau de mer à peu près pour chaque 100 000 atomes d'hydrogène dans l'eau de mer, il y a un atome de deutérium. Donc on peut espérer en récupérer. Et si vous faites ça, vous espérez, vous avez une machine qui va produire 37 terawatts, 37 1000 milliards de watts. L'humanité actuelle, elle produit 15 terawatts, 15 000 milliards de watts. Donc vous avez une machine, cette machine, elle toute seule, va produire en continu, pendant la durée du voyage, deux à trois fois la puissance actuelle que l'humanité produit. Elle fait ça, elle arrive à l'étoile de Barnard, là ils avaient visé l'étoile de Barnard, plutôt qui n'est pas la plus proche, mais qui est une étoile intéressante aussi, en 50 ans. Voyez les efforts. Construire une énorme machine en orbite, moissonner l'hélium-3 sur Jupiter, remplir les réservoirs sur Jupiter, c'est-à-dire on n'y est pas sur Jupiter, on a une sonde qui retourne autour de Saturne, et c'est une petite sonde qui s'appelle Cassini, qui regarde Saturne et qui fait les satellites de Saturne. C'est compliqué, d'accord ? Ça veut dire que ça va être compliqué. On peut le penser, mais c'est compliqué. Alors, j'ai pris un vaisseau de science-fiction, le Venture Star, qui est très beau. C'est un très beau vaisseau. Je l'ai pris parce que, évidemment, les vaisseaux de science-fiction, les vaisseaux qu'on voit dans Manchu, qu'on voit dans Chris Foss, bon, ils pètent le feu, quoi. C'est des super vaisseaux. On a plaisir à les voir. Ils font plaisir à voir. Bon. Des vaisseaux de science-fiction crédibles, il n'y en a pas tellement. Et Avatar, qui est un film qui n'est pas sans défaut, scénaristique essentiellement, parce que du point de vue de la science, ils ne sont pas si mauvais. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas si mal faites. Ils ont un très beau vaisseau. Quand je dis très beau vaisseau, d'abord, il est beau. Et en même temps, il est réaliste. Ça pourrait ressembler à ça, un vaisseau interstellaire crédible. Quand on voit ce vaisseau, les grosses boules qui sont ici, c'est le réservoir. D'accord ? C'est l'endroit où on va mettre le carburant. Alors par carburant, on va discuter ce qui pourrait être dans le Venture Star tout à l'heure. Ces choses-là, qui sont rougeâtres, ce sont les radiateurs. Ce réacteur, il va produire de l'énergie, il va éjecter la matière dans ce sens-là, éjecter la matière dans ce sens-là, et le vaisseau va progresser en accélérant dans le sens opposé, par action et réaction. Mais dans le réacteur en fonctionnement, une partie d'énergie va éjecter la matière derrière, l'autre partie va chauffer le moteur, hein, comme dans votre voiture. Et qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Il y a un système de refroidissement, qui est de l'eau en général, qui circule autour du moteur. Eh bien, votre moteur interstellaire, votre moteur de vaisseau interstellaire, va devoir refroidir lui aussi. On ne va pas le refroidir à l'eau, on ne va pas le refroidir à l'air, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Et comme chacun le sait, on ne vous entend pas hurler quand il y a un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le seul moyen de refroidir sont des radiateurs, de chauffer d'énormes masses de métal qui vont rayonner, être chauffées, et donc rayonner sous forme de lumière l'énergie supplémentaire. Et donc ce sont ces radiateurs qu'on voit ici et là. Cette chose ici, c'est peut-être, comme on dit dans les films de science-fiction, un senseur. Quelque chose qui regarde ce qui se passe à l'avant, un radar, un je ne sais pas quoi, qui regarde ce qui se passe à l'avant. Alors, cette chose qui est ici, c'est le câble qui tire la soute et qui tire une autre chose, les modules de vie, l'endroit où sont les astronautes. Là, ce sont les soutes. Comment je sais que ce sont les soutes? Parce qu'à côté, je vois ça, les cargos, les vaisseaux qui montent et qui descendent de Pandora au Venture Star pour aller prendre ce qui a été amené ou ramener les cargaisons de minerais qu'ils vont récupérer sur Pandora. Et puis ça, c'est le module de vie. Comment je sais que c'est le module de vie, ça? Cette partie qui est ici, cette espèce d'altère dans le film, ça tourne sur elle-même, ça tourne. Et ça tourne pourquoi? Eh bien, en tournant aux extrémités, à cause de la force centrifuge que vous avez tous subi au moins une fois dans votre vie, même des dizaines de fois, une voiture qui tourne dans un virage serré, dans un manège, la force centrifuge, on la ressent très bien dans un manège, eh bien, cette force centrifuge aux extrémités va créer une manière de pesanteur artificielle dans lequel les passagers peuvent être pendant toute la durée du voyage, qui est presque 6 ans, dans le cas du Venture Star, ce qui est dit dans le film. Et cette pesanteur artificielle évitera que les muscles des passagers s'atrophient s'ils sont en impesanteur pendant la durée du voyage ou en pesanteur faible. Et donc cette chose-là, je sais que ce sont les modules de vie. Et mieux, quand je dis le... Alors je vais revenir, je sais que c'est les modules de vie. Et le câble qui est ici, il est très malin. Les vaisseaux Star Trek, les vaisseaux Chris Foss, les vaisseaux Manchu, tous ces vaisseaux de la science-fiction, qui sont des beaux vaisseaux, enfin ils sont là pour que ça pète le feu, comme on dit, hein, donc ils sont là pour faire plaisir. Ce vaisseau-là, il est plus économe en masse, parce qu'évidemment, vous avez compris, envoyer de la masse, ça coûte de l'énergie, et l'énergie, on ne sait pas d'où on la sort. Donc il faut la plus petite masse possible. Donc là, la zone de vie et la zone de cargo, elles sont réduites vraiment à la portion congrue. Vous voyez que l'énorme masse, c'est le moteur. Les proportions sont bonnes. Il y a un énorme moteur pour tirer un petit quelque chose, qui est quand même pas négligeable. Il y a des humains là-dedans, hein, donc le petit quelque chose, je ne sais pas combien il pèse, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà une belle masse. Et le câble, il est là juste pour tirer la structure. Donc on a vraiment un vaisseau réduit à un gros bloc moteur, un petit machin qui va tirer ou qui va garder le cargo et le module de vie. Ça, c'est très malin. La forme ici, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps, la forme, c'est la forme de la tour Eiffel. Je dis ça volontiers, hein, c'est à dessein. Je vous laisse réfléchir à cette question. Pourquoi ça a la forme de la tour Eiffel? Et d'ailleurs, pourquoi la tour Eiffel, elle a cette forme? Ceux qui veulent, on discutera de ça tout à l'heure. Module de vie. Ce truc-là, ça tourne. Ce truc-là, ça tourne. Ça fait cette pesanteur artificielle. Si j'imagine que l'accélération à l'extrémité, c'est de l'ordre d'une gravité terrestre, bah pour que les gens soient habitués à qu'ils restent dans la pesanteur habituelle, moi, je suis un dingue. Je regarde le film et je regarde en combien de temps ça fait un tour. C'est plus subtil que ça parce que la séquence n'est pas très longue et on ne voit pas faire un tour. On voit faire un quart de tour. Et moi, je mesure qu'à peu près, il faut 9 secondes pour faire un quart de tour. Je regarde le film pour faire ça, time code sur le DVD. Donc, 36, mettons entre 35 et 40 secondes. Voilà, entre 35 et 40 secondes pour faire un tour. Eh bien, quand on sait faire de la physique, on sait calculer quelle longueur il faut pour qu'en faisant un tour, en mettant 40 secondes, l'accélération à l'extrémité soit celle de la pesanteur terrestre. Et l'échelle de taille, c'est à peu près 200 mètres. Ça veut dire que sur ce vaisseau, ce machin-là, il fait, mettons, entre 150 et 200 mètres. Et donc le vaisseau, il fait... combien il fait? Ben, on compare, et il fait typiquement 2 km de longueur, ce vaisseau. Donc on a une échelle de taille sur ce truc-là. Ce vaisseau, il est très réaliste. C'est un très joli vaisseau. Il a une bonne taille, il a un gros bloc moteur, des petits cargos, il a la taille qu'il faut. Donc l'échelle de ce bloc moteur, vous voyez que si ça, ça fait, si ça, ça fait 100 mètres ou 100, 200 mètres, vous voyez que les réservoirs, c'est des réservoirs, hein, c'est des sphères qui font 200 mètres de diamètre à peu près. Et il y en a plusieurs. Donc c'est des beaux réservoirs, c'est pas mal, enfin c'est une bonne idée. Alors maintenant la question c'est quoi ce truc-là ? Ce truc-là, ça a l'air c'est un miroir. Alors, on pourrait dire, les gars qui sont là, ils vont se raser dans le miroir en face. On peut imaginer plein de choses. Ça peut être un parachute. Genre, à un moment donné, on va freiner. Le vaisseau, il est plein pot dans l'espace. Il faut bien qu'il puisse freiner à un moment donné. Mais comment il freine ? Comment on freine dans l'espace ? On ne tire pas le frein à main. Il n'y a pas tout ça, évidemment. Dans l'espace, c'est vide. Il n'y a pas de matière pour s'appuyer. Il n'y a pas de frottement à faire, ou très peu. Donc c'est pas facile de freiner dans l'espace. Et bien la solution, à mon avis, adoptée par ce vaisseau, c'est que à l'aller, au moment où vous vous dirigez, vous êtes en train d'accélérer vers votre cible, la cible est par ici, à gauche de l'image, et le vaisseau éjecte la matière par ici, et l'éjecte par là, et il progresse dans le sens opposé. Là, il est en train d'accélérer. Mais pour décélérer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se retourner. Je vois M. Macon, évidemment, pour lui, tout ça est évident. On va en discuter avec lui, M. Claudio Macon, qui est ici, qui est un astronauticien, je ne sais pas comment on dit ça, enfin un spécialiste de l'espace, que vous allez voir dans les tables rondes du futur. On va retourner le vaisseau, de sorte que cette fois-ci, c'est cette partie-là qui pointe vers l'objectif, et les moteurs qui poussent toujours dans le même sens vont contredire le mouvement du vaisseau, le décélérer, pour arriver à vitesse nulle, très faible, près de votre objectif, qui est la planète, ou le satellite Pandora. Et donc, les modules de vie qui est ici, ils se retrouvent face au milieu interstellaire. Et ce milieu interstellaire, au moins au début, vous venez de vous retourner, vous êtes, je vous donne la réponse déjà, le vaisseau, il va aller à peu près à 2/3 de la vitesse de la lumière. Le vaisseau de Venture Star doit atteindre les 2/3 de la lumière pour être cohérent avec l'aventure. Eh bien, ce vaisseau, qui se déplace très vite dans le milieu interstellaire, dont les passagers vont recevoir dans le vaisseau les particules du milieu interstellaire qui sont très peu denses. Quelques milliers de particules par centimètre cube. Quelques milliers, on a l'impression que c'est beaucoup, mais dans cette pièce, il y a des milliards de particules par centimètre cube. Ces quelques milliers qui arrivent à très grande vitesse dans le vaisseau, à l'intérieur du vaisseau, vont interagir avec les organismes des passagers et peuvent avoir les mêmes effets si vous teniez dans votre main un morceau de matière radioactive qui émet des particules de haute énergie. Si on veut protéger les passagers de ces particules d'haute énergie, il faut un bouclier. Et ceci est un bouclier qui va absorber, quand le vaisseau sera retourné, à l'aller, dans la partie accélération, il ne sert pas à grand-chose, dans la partie décélération, il va protéger les passagers qui sont ici. Le bouclier qui est ici. Et la longueur du vaisseau, que je disais, à peu près 2000 mètres. Alors, pour éviter quand même de vous épuiser, je vais passer directement à une chose qui est amusante. Qu'est-ce que je vais faire ? Oui, pour qu'il y ait des questions quand même, sinon je vais vous déprimer. Je vais vous parler quand même d'un modèle, d'une façon d'accélérer, qui s'appelle l'aspirateur interstellaire. L'idée cette fois-ci, c'est le carburant s'apaise et plutôt que de l'emmener, je vais le récupérer au fil du voyage. Ça, c'est une vue d'artiste, ce système-là n'est pas forcément comme ça, mais l'idée, c'est la suivante. Vous allez faire une sorte de grand filet magnétique, donc avec un champ magnétique, peut-être un filet magnétique qui sera fait par des supraconducteurs. J'en profite pour vous dire que là-bas à gauche, il y a un stand sur la supraconductivité qui vous permettra de comprendre en quoi la supraconductivité, la capacité à faire transporter le courant dans un fil électrique sans résistance, est capable de produire des champs magnétiques extrêmement intenses, de sorte que vous puissiez faire ces champs intenses sur des grandes dimensions et récupérer de la matière interstellaire. Et cette matière interstellaire, très peu dense, vous servira à propulser votre vaisseau. Ça, c'est une idée qui date des années 60. Elle a été mise en scène dans un roman que je vous recommande, dont je recommande la lecture, qui s'appelle Taux Zéro, de Poul Anderson, qui était traduit en français maintenant il y a 2 ans, aux éditions du Bélial. Et là, c'est un vaisseau qui récupère la matière en permanence. Et ce vaisseau, il faut qu'il puisse freiner. Et dans le roman de Poul Anderson, le système de freinage tombe en panne. Je ne raconte pas tout le roman, il arrive des tas de choses. Et donc, le vaisseau accélère tout le temps. Tout le temps, sans jamais pouvoir décélérer. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire des merveilles. Voilà, un aller simple vers quelques destinations, l'étoile la plus proche, jusque la galaxie la plus proche, la galaxie Messier 31, la galaxie d'Andromède, ou jusque dans les amas de galaxies les plus lointains, si vous êtes capable d'accélérer avec une accélération constante de une gravité terrestre, on est très 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 loin de savoir faire ça, très très loin de savoir faire ça, vous pouvez vous rendre à des endroits très lointains, en des durées très longues, mesurées en temps terrestre, vous allez vous approcher extraordinairement près de la vitesse de la lumière sans la dépasser. En temps terrestre, ça prendra un voyage qui sera évidemment très long, parce que les distances sont très longues, mais en temps du vaisseau, c'est ça le point sur lequel je vais finir mon exposé, en temps du vaisseau, les durées seront courtes. Car une chose incroyable se produit, c'est que les durées dépendent de l'état de mouvement de celui qui les mesure. Je répète, les durées dépendent de l'état de mouvement de celui qui les mesure. Si je reste fixe et que vous êtes fixe par rapport à moi, on est tous fixes les uns par rapport aux autres, nous allons nous accorder sur des durées. Par exemple, la durée de cette conférence aura la même durée pour tout le monde. Mais si moi je bouge, j'ai tendance à bouger, la durée de la conférence pour moi sera légèrement plus courte. C'est pour ça que des fois on a l'impression qu'elle est longue pour vous. Légèrement plus courte, évidemment, l'écart est extrêmement faible parce que les vitesses à laquelle j'arpente la scène sont des vitesses évidemment très faibles. Il faut pour que ces durées, ces écarts de durée mesurés soient, comment dire, manifestes, il faut que la vitesse relative entre vous et moi, entre l'observateur que j'appellerai fixe et l'observateur en mouvement, le voyageur, les vitesses relatives soient d'une fraction appréciable de celle de la lumière pour que les effets commencent à être manifestes. Regardez le résultat en durée de temps, en temps de vaisseau. Vous pouvez atteindre en une trentaine d'années des galaxies qui sont situées à des millions d'années-lumière. En temps terrestre, ça prend des millions d'années, mais en temps de vaisseau, ça prend une trentaine d'années. Il est possible de visiter les étoiles en une vie humaine. Vous, si vous avez un vaisseau qui peut accélérer tout le temps à 1G, pas facile à faire. Mais si vous montez dedans, vous pouvez atteindre des distances considérables avant de mourir dans le vaisseau. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est le vaisseau n'existe pas, il n'est pas facile à faire. Mais on peut imaginer faire des voyages interstellaires pour que les passagers arrivent vivants à des endroits qui sont extraordinairement lointains. Mais pour ça, bon, il y a des moyens techniques qu'on ne sait pas faire. En ne revenant pas, j'ai même marqué, aller simple. Enfin, vous pouvez revenir. Bon, retrouver la Terre et les humains, ça sera un autre problème, parce qu'il se sera passé 30 ans en temps du vaisseau, mais 30 millions d'années sur Terre. C'est aussi une manière de faire un voyage vers le futur. La bonne nouvelle, c'est que le voyage dans le temps existe. Vers le futur uniquement, et en aller simple. D'accord ? Et en aller simple. Pour conclure, je voulais quand même vous montrer les effets que ça la donne. Ah, voilà. Donc, les effets du voyage rapide. Dilatation du temps, l'effet Doppler, c'est juste le changement de fréquence lumineuse. J'ai comme l'effet Doppler sur le son, quand il y a une moto qui passe près de vous, un camion, la même chose sur la lumière. Alors la lumière, c'est pas évidemment la lumière, c'est pas ça. Ça fait, quand la source s'approche de vous, on la voit plus bleue. Quand la source s'éloigne de vous, on la voit plus rouge. Plus bleu, c'est le aigu, plus rouge, c'est le grave. Plus aigu, plus grave. Elle s'approche de vous, elle est plus aiguë. Elle s'éloigne de vous, elle est plus grave. Dilatation du temps dont on vient de parler, aberration des angles. Quand vous voyez une source lumineuse dans une direction, si vous vous déplacez maintenant rapidement par rapport à cette source, la direction de la source change. D'accord ? C'est un peu compliqué à... quand je dis un peu compliqué, le détail technique est un peu compliqué. Je vais vous montrer par l'exemple. C'est pas ça. D'accord ? C'est pas comme ça. C'est pas aller Chewbacca plein pot dans l'univers et les étoiles passent sur le côté. D'accord ? C'est joli. Enfin, je ne critique pas Star Wars. Moi, j'aime bien Star Wars. Il n'y a pas de problème. Enfin, au moins les trois premiers épisodes. Surtout l'épisode 4, évidemment, celui que j'ai vu quand j'étais petit. Et évidemment, l'épisode... Non, le deuxième, le 5, en fait, qui est vraiment le meilleur. Mais enfin, bon, il y aurait des longues discussions de fans là-dessus. Évidemment, évidemment. Des longues discussions. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on doit voir. Ce qu'on va voir, je vais vous le montrer. Ça a été fait par le voyage vers Pandora. Oui, d'abord, avant de vous montrer ce qu'on doit voir, les effets de dilatation du temps... Dans Avatar, on nous dit ça. Le voyage dure 5 ans, 9 mois et 22 jours. C'est un passager du vaisseau qui parle, Jake Sully, le héros du film. S'il parle, on peut imaginer qu'il parle en temps du vaisseau, pas en temps de la Terre. Il a fallu 5 ans, 9 mois et 22 jours pour franchir la distance qu'il sépare d'Alpha du Centaure. Ils sont dans un système qui est Alpha du Centaure, 4,37 années-lumière précisément. Avec ces deux informations-là, je peux calculer tout le vaisseau, toute la trajectoire du vaisseau, je peux tout calculer. Je vous le donne ici pour ceux que ça intéresse. Voilà le temps d'accélération ou de décélération. Compté en temps terrestre ou en temps de vaisseau, les distances parcourues, le temps de croisière, ils ont accéléré, ils sont restés à vitesse constante, puis ils ont décéléré. Voilà mon projet de vaisseau. Ils ont accéléré à une accélération constante de une gravité terrestre. C'est une hypothèse. Si une gravité, parce que c'est l'ambiance auquel on est habitué sur Terre. La vitesse maximale atteinte par le vaisseau, j'ai dit tout à l'heure, à peu près 2/3 de la vitesse de la lumière. Ils ont un beau vaisseau et le carburant qui est dans les grosses sphères est très probablement de l'antimatière. Enfin, ça, si ce n'est pas ça, le volume de carburant n'est pas assez grand. Donc ce vaisseau, il est crédible, enfin, il est pensable, calculable, crédible par plein d'aspects, on ne sait pas le faire. Alors, maintenant, voilà ce que ça donne, l'aberration des angles. Vous êtes dans l'univers, voilà ce qu'on voit. Ici, on voit Sirius, l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel terrestre, la constellation d'Orion, le Taureau, les Pléiades, pour ceux qui savent, quelque part ici, ça, là, c'est une étoile qui est Epsilon de l'Éridan. Epsilon de l'Éridan, c'est une étoile qui a été imaginée plusieurs fois pour visiter, pour aller envoyer une mission éventuellement habitée, une mission automatique. 12 années-lumière. Vous êtes à 0 fois la vitesse de la lumière. 0 fois, voilà, c'est le ciel qu'on voit depuis la Terre. Et maintenant, les diapositives qui vont s'enchaîner, c'est chaque fois que j'ai un incrément de 10% de vitesse de la lumière, comment change le ciel, à la fois par des effets d'aberration, la déformation du ciel due au fait que vous vous déplacez rapidement par rapport à ces sources lointaines, et les changements d'intensité lumineuse. Voilà, maintenant, à 10% de la lumière, 20%, 30%, l'impression que ça vous donne, c'est quoi ? Vous avez l'impression, votre champ visuel s'élargit, c'est comme si vous reculiez par rapport au champ d'étoiles. C'est très curieux, l'impression de l'aberration. C'est pas du tout, les étoiles passent sur le côté. C'est, vous avez l'impression de reculer par rapport aux étoiles. Alors que vous vous dirigez à très grande vitesse vers ce champ d'étoiles lointain. 40%, 50%, on sent que la tension s'accroît. 60%, vous voyez l'augmentation aussi de la luminosité des étoiles. Le décalage vers le bleu, on devrait les voir plus bleus qu'elles ne sont. Il n'est pas parfaitement représenté ici, mais c'est ça l'ambiance. Décalage vers le bleu, aberration des étoiles et focalisation. Les étoiles sont plus importantes. Cette aberration a une conséquence qu'on appelle focalisation relativiste. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, 70, 80, 90% de la lumière. Là, on est vraiment plein pot. On aimerait pouvoir faire ça, plein pot dans l'univers. 99% de la lumière, quasiment l'intégralité du ciel est rassemblée dans une petite direction à l'avant. Vous regardez à l'arrière, il n'y a plus d'étoiles autour de vous, vous voyez tout le ciel à l'avant. Ce n'est pas facile de se repérer. Vous voyez, ça pose tout de suite des problèmes de navigation interstellaire. Comment je me repère là-dedans ? Où je suis ? D'accord ? Quelle vitesse j'ai ? Quelle vitesse peut-être par ça ? Voilà, je vais conclure cette diapositive pour que vous ayez le temps de poser des questions. Quand on voyage dans l'espace, on va voir des choses curieuses. Il va falloir prévoir le coup. On n'arrive pas comme ça, évidemment, comme des charlots. Et prévoir le coup, il faut prévoir le coup bien en amont. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et d'efforts. On peut le penser. On peut le simuler, on peut jouer avec ça de manière crédible. On ne sait pas encore le faire et ça prendra probablement un certain temps. Mais on peut le penser et rêver toujours avec ça. Et moi, c'est ça qui finalement me satisfait encore un peu. Merci de votre attention. On a une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure, si vous avez des questions à me poser. Sinon, j'en ai encore pour 2 heures à parler. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez 0 question, on peut continuer pendant longtemps derrière. Enfin, pas plus d'un quart d'heure de toute façon, parce qu'il y a la table ronde suivante. Merci de votre attention. Donc si vous avez une question, il faut, je pense, lever la main et cette jeune personne ici vous passera le micro. Il y a déjà un monsieur devant qui a une question.
Oui, merci. Vous pouvez nous dire un mot du warp drive, s'il vous plaît ?
Alors le warp drive, regardez, c'était prévu. Hop ! Et voilà. Alors le warp drive, c'est d'autant plus intéressant d'en parler qu'il y a un film qui s'appelle Interstellar qui sort là tout bientôt, le 5 novembre, et il y a des choses qui ne sont pas sans rapport avec ça probablement. Enfin, sachant que un des conseillers scientifiques pour ce film s'appelle Kip Thorne, et Kip Thorne c'est un des grands spécialistes américains de la relativité générale. Alors l'idée est la suivante, pas facile à mettre en œuvre aussi, vous allez le voir. L'idée est la suivante, vous voulez aller vite d'un point à un autre. D'accord, vous voulez aller vite d'un point à un autre. Mais en fait, quand on dit vite, le mot vite, c'est vitesse. Sous-entendu à grande vitesse. Mais ce que vous voulez vraiment, c'est d'aller en un temps court d'un point à un autre. Donc, quand vous voulez aller de Paris à Marseille, il y a 800 km, mettons, en gros. Vous dites, je veux aller vite à Marseille. Ça veut dire, vous allez en voiture, éventuellement vous accélérez, vous faites attention aux limitations de vitesse. Si vous voulez vraiment aller vite, prenez le TGV. Mais donc, c'est vous jouez sur votre vitesse pour aller vite de Paris à Marseille. Mais si je vous disais, vous pouvez aller de Paris à Marseille en 3 heures, ça vous suffit. À la limite, le procédé vous importe peu. Que ce soit dans un TGV, dans une voiture ou dans je ne sais quoi, si vous pouvez y aller en 3 heures ou en 5 minutes, ça vous importe peu. Ce qui compte, c'est le temps que vous allez mettre pour aller de Paris à Marseille. Et le temps propre, le temps de votre montre, vous. C'est ce temps propre qui est le temps du voyageur. Ce temps, quand je parlais tout à l'heure de la distinction entre le temps terrestre et le temps du vaisseau, le temps terrestre, c'est le temps terrestre, et le temps du vaisseau, ça s'appelle le temps propre, le temps des voyageurs. Ce qui compte, c'est votre temps propre, qui soit le plus court possible. C'est important parce que la durée du voyage, c'est la distance divisée par la vitesse. Bon, j'espère que je vous ratatine pas avec cette affaire. Hein. 800 km, 100 km par heure, 8 heures. D'accord ? C'est un truc que vous faites tout le temps. Enfin, maintenant, les GPS font ça tout seul pour vous. Donc, ce qui compte pour vous, c'est que le temps soit court. Et ce temps court, il est en général la distance divisée par la vitesse. La distance Paris-Marseille, ben, c'est la distance Paris-Marseille. Donc vous dites, je vais augmenter ma vitesse. Pour diminuer ce temps, je vais augmenter ma vitesse. OK. Mais il se trouve qu'en relativité générale, qui est une théorie de la gravitation du Einstein, vous pouvez réduire ce temps en réduisant la distance. Mais non, pour Paris-Marseille, ce n'est pas facile. Mais l'idée est la suivante. Vous êtes à Paris, vous saisissez Marseille, vous tirez Marseille à vous, vous faites un pas et vous lâchez Marseille. C'est une caricature pour l'instant, mais c'est ça l'idée. Vous avez voyagé à vitesse, vous n'avez pas fait beaucoup d'efforts au point de vue de la vitesse. Les efforts ont été dans tirer Marseille à vous, faire un pas et vous êtes à Marseille. Ce n'est pas facile à faire avec Marseille, mais simplement, la relativité générale d'Einstein montre que l'espace-temps est déformable par la présence des masses. La Terre déforme l'espace-temps, pas beaucoup. Le Soleil déforme plus parce qu'il est beaucoup plus massif. Ça a d'ailleurs été vérifié par une éclipse de Soleil en 1919 où on a vu la lumière d'une étoile lointaine derrière le Soleil déviée par la masse du Soleil. La lumière est déviée par la présence du Soleil, par la masse du Soleil. Habituellement, la gravité est habituelle, la lumière n'a aucune espèce d'interaction avec la masse habituellement. Vous pouvez déformer l'espace, c'est ce que montre ce dessin, je vais en parler un peu plus avant. Si vous pouvez déformer l'espace, vous pouvez, vous ne tirez pas Marseille, vous tirez un mètre devant vous et vous l'approchez, vous faites un petit pas. Vous tirez un mètre devant vous, vous l'approchez, vous faites un petit pas. Je dis ça, tirer, ça veut dire que vous allez devant vous contracter l'espace pour que les distances à franchir soient plus courtes. Et vous franchissez des distances plus courtes à des vitesses quelconques, pas très grandes éventuellement. Ce n'est pas grave puisque la distance a diminué. Donc c'est ce que représente en gros ce dessin. Vous contractez l'espace devant vous, mais ce n'est pas suffisant. On montre que pour pouvoir faire ça, il faut aussi dilater l'espace derrière soi. Deux choses en même temps. Il faut en gros se pousser aux fesses et se tirer par devant, dans une direction. On appelle ça aussi en français la propulsion métrique. Métrique, ça veut dire vous déformez ce qu'on appelle la métrique de l'espace-temps. Vous déformez la structure géométrique de l'espace-temps. Et vous pouvez vous propulser dans une direction. Ce n'est pas de la propulsion au sens où vous poussez par un réacteur. C'est vous creusez. Imaginez que vous creusiez un trou devant vous et vous tombez dedans, évidemment. Et le trou, vous en creusez un devant et vous retombez dedans. Et vous en creusez un devant et vous tombez dedans, etc. Vous creusez un trou devant vous, un trou gravitationnel devant vous. Pour ça, il faut donc contracter l'espace-temps devant vous et le dilater derrière vous. Ça, c'est une idée géniale. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut contracter l'espace-temps de manière sensible. Alors le contracter de manière sensible, ce n'est pas vous. Ce n'est pas la masse de votre vaisseau. Ce n'est pas la masse de la Terre. C'est gros la Terre. Ce n'est pas la masse du Soleil. C'est quelque chose qui va être capable d'avoir la masse d'une étoile. Enfin, ce n'est pas la masse du Soleil. Si, c'est la masse du Soleil. Ou quelques fois la masse du Soleil, mais pas avec sa taille. C'est la masse du Soleil contractée considérablement. Et donc, c'est quelque chose qui va ressembler à un trou noir. Vous allez mettre devant vous un trou noir qui fait la masse du Soleil, 3 km de rayon. Ou éventuellement plus petit, un trou noir qui fait quelquefois la masse de la Terre, qui va faire la taille d'une bille. La Terre comme trou noir, c'est gros comme ça. C'est une bille, un calot. Donc vous avez devant vous un calot qui fait la masse de la Terre, qui va contracter l'espace-temps devant vous, et derrière vous avez l'équivalent négatif. Ce n'est pas la masse. C'est quelque chose qui va faire en valeur absolue la masse de la Terre, mais qui va dilater l'espace. Donc c'est une matière qui n'existe pas, qui aurait une masse négative, n'existe pas, une densité d'énergie négative, n'existe pas. On n'en a pas vu d'exemple, on n'en a pas sous la main, et qui va faire la même chose derrière. Donc il y a déjà, un, il faut manipuler les trous noirs à l'avant, deux, il faut une sorte de trou noir antigravitationnel à l'arrière, on ne sait même pas si ça existe. Mais vous pouvez calculer la bulle, c'est cette espèce de rond bleu, la bulle d'espace-temps que ça va, dans laquelle va se déplacer votre vaisseau. Ça s'appelle le warp drive d'Alcubierre, monsieur Miguel Alcubierre. Il y a des subtilités sur le radar d'Alcubierre qui a des problèmes, ça veut dire une fois que vous l'avez créé, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est-à-dire que si vous êtes à l'intérieur et vous voulez dire j'appuie sur le bouton, quelque part à l'intérieur j'appuie sur le bouton pour arrêter la bulle et que le vaisseau s'arrête, l'information qui pour aller du vaisseau au bord, elle prend un temps infini. Donc une fois, imagine le truc arrive, il est là, boum, par magie, il est apparu, vous êtes dedans, super, je vais plein pot dans l'univers, vous ne pouvez pas vous arrêter. Bon, c'est pas sans intérêt, mais c'est quand même... Donc il y a des versions qui s'appellent les tubes de Krasnikov, je vous engage à regarder ça, on a discuté là-dessus, on sait calculer ça. Ça relève de la relativité générale d'Einstein, qui est une théorie de la gravitation qui a été vérifiée avec une grande précision dans un grand nombre de domaines variés. On sait calculer quelle distribution de masse et d'énergie il faut pour être capable de faire ce warp drive. On ne sait pas le faire. Mais vraiment, du coup, pas le faire. On ne sait pas manipuler les trous noirs. Les anti-trous noirs, les trous noirs anti-gravitationnels, on ne sait même pas si ça existe. Enfin, voilà. C'est encore un truc génial où on sait le penser, mais on ne sait pas le faire. Mais alors là, encore bien pire que les vaisseaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et dans Interstellar, peu d'informations ont filtré, mais avec Kip Thorne dans le coup, je soupçonne qu'ils ont un système comme ça. On verra. Je vous laisse suivre l'actualité de ma production scientifique. Dès que j'aurai vu Interstellar, j'irai avec, comme d'habitude dans ce genre de film, avec ma je passe pour un con à chaque fois, avec ma frontale et mon papier, je note tout, je ressors et j'en fais un article pour dire « Ouais, c'est pas mal, on va pouvoir faire comme ça, ça va être cool. » Donc voilà, Interstellar, je pense, ça va être intéressant du point de vue technique. Hein, Kip Thorne, qui est un grand spécialiste de relativité générale, s'ils ont suivi vraiment ses conseils, ça peut être un film qui a une densité scientifique intéressante, autour de quelque chose qu'on ne sait pas faire, même si on sait le calculer. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sur les... Oui, non, oui, monsieur. Je ne sais pas où est le micro, la personne... Elle est là, elle arrive avec le micro. Comme ça, tout le monde entendra votre question si c'est enregistré. Oui, elle est ce jeune homme qui est juste à gauche, là, voilà.
Alors, merci. Vous l'avez sûrement dit déjà, mais j'ai pas compris pourquoi on peut pas atteindre 100% de la vitesse de la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on l'avait atteinte?
Alors, je réponds là-dessus. On peut atteindre les seuls objets qui peuvent atteindre exactement la vitesse de la lumière. En fait, par vitesse de la lumière, il faut pas comprendre la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est une propriété de la lumière. Ok. Mais la vitesse de la lumière, c'est autre chose. Dans la théorie d'Einstein de la relativité restreinte, cette fois-ci, qui s'intéresse donc à la cinématique et la dynamique des corps, mais pas la gravitation, hors gravitation, on peut montrer qu'il existe une vitesse indépassable. On peut montrer que cette vitesse indépassable, c'est une vitesse qui est aussi la même dans tous les référentiels. C'est-à-dire que cette vitesse-là, si vous la mesurez comme ça, vous êtes fixe dans votre laboratoire, vous mesurez la vitesse de cette chose, vous trouvez quelque chose, une certaine valeur, et si maintenant vous êtes en déplacement, vous trouvez la même valeur. Il se trouve que la lumière a les propriétés de cette vitesse d'Einstein, si j'ose dire. C'est pas comme ça qu'Einstein est arrivé à l'idée, mais c'est comme ça qu'on pourrait le présenter maintenant. Il existe une vitesse indépassable, il existe une vitesse invariante par changement de référentiel. Il se trouve que c'est la vitesse de la lumière qui a ces propriétés-là. Donc la vitesse de la lumière, c'est autre chose qu'une propriété de la lumière. Déjà, il faut avoir ça en tête. Donc la vitesse de la lumière, c'est la vitesse indépassable. Les choses qui ont la vitesse de la lumière... On peut montrer aussi dans cette théorie de la relativité, pour avoir exactement la vitesse de la lumière, il faut avoir une masse nulle. Nulle exactement, pas petite, nulle. Les choses qui ont des masses nulles, c'est la lumière, et on a longtemps pensé les neutrinos, des particules qui en fait ont une masse qui est non nulle, maintenant on le sait, mais qui est extraordinairement petite. On ne sait même pas la valeur exacte de cette masse, mais c'est peut-être en unité, je vais mettre d'électrons, c'est peut-être 500 000 fois moins que l'électron. Donc un truc qui est extraordinairement léger, presque de masse nulle. Si les neutrinos ont une masse nulle, ils ont exactement la vitesse de la lumière, et sans autre possibilité. La lumière, elle n'est à l'arrêt dans aucun référentiel. La lumière, elle a la même vitesse dans tous les référentiels. Il n'y a pas de référentiel, la lumière est posée devant vous et ne bouge pas. Du coup, toute la matière, qui a une masse, aussi petite soit-elle, a une vitesse qui sera forcément strictement inférieure à la vitesse de la lumière. Et cette vitesse peut s'approcher très très près de la vitesse de la lumière, 99%. 0,9, 0,99999, aussi, autant de 9 que vous voulez, mais sans jamais être exactement égal à celle de la lumière, parce qu'elle a une masse. Donc l'impossibilité d'atteindre strictement la vitesse de la lumière pour la matière, c'est parce qu'elle a une masse. On peut s'approcher très près, et l'énergie à payer tend vers l'infini quand vous vous approchez infiniment près de la vitesse de la lumière. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Si vous avez un budget énergétique important, vous allez à 99%. Si vous avez beaucoup plus, ce n'est pas juste un peu plus, beaucoup plus d'énergie, vous allez à 99,9. Si vous avez immensément plus d'énergie, vous allez à 99,99. Et si vous avez des totaux colossaux d'énergie, vous allez à 999. Voyez. Donc vous choisissez selon votre... Et vous ne gagnez pas beaucoup en vitesse finalement. Hein. Quand vous êtes à 99%, vous êtes presque à la vitesse de la lumière. Voilà le problème auquel on est aussi confronté. On ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. On me dit que la table ronde suivante doit se préparer. Il faut être respectueux des gens. Merci infiniment d'être présent, de vos questions. Je suis là, de toute façon, tout le festival, donc on pourra discuter de ça. Merci à vous. Et la prochaine table ronde qui est prête quasiment.